s'en va dans Jean 21. Est-ce qu'on peut donner notre attention complète au Seigneur juste pendant les à peu près 30-40 prochaines minutes? Je pense que le Seigneur a des choses spéciales à travers ça. Je vous dis, il y a quelque chose que pour moi qui résonne spécialement dans mon cœur avec ce chapitre-là, puis aussi le message que Dieu m'a mis à cœur. Et on n'a pas beaucoup de monde, mais ceux qui ne sont pas ici présentement aujourd'hui, ce matin, vont pouvoir l'écouter. J'ai hâte de vous partager ces choses. Je commence avec les trois premiers versets. On a lu le chapitre au complet, mais j'aimerais vous lire d'abord les trois premiers versets, puis ensuite on va enchaîner à travers le message. On va tout relire le chapitre. Donc on commence chapitre 21. Jean, j'avais-tu dit l'évangile? J'espère que vous le saviez, là, parce que c'est ce qu'on a fait toute l'année. Là. Jean 21:1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils leur dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Seigneur, merci que on considère un texte vivant. Des choses qui sont des faits historiques qui sont arrivées il y a 2000 ans, mais des vérités éternelles qui sont pour nous ici ce matin. Seigneur, on veut faire silence dans nos cœurs, laisser toute distraction, tout ce qui nous empêche d'être attentifs à ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, merci que tu es fidèle. Tu parles toujours, tu communiques. Aide-nous à avoir un cœur disposé pour écouter, entendre ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur que tu es bon, que dans ce texte on voit toute ta bonté qui restaure ce qui avait été brisé et que c'est encore comme ça aujourd'hui. Merci Seigneur, on t'adore, on te loue, on vient à toi ce matin, dépendant et aussi par la foi s'attendant de recevoir des grâces merveilleuses de ta bonne main, parce que tu es bon. On regarde à toi, on s'attend à toi, Seigneur, pour ce que tu as pour nous, au nom de Jésus. Amen. Surpris par la restauration, je rappelle que depuis plusieurs messages, on y va avec le thème de la surprise, parce que vraiment, à travers l'évangile de Jean, à la fin, tout le monde était surpris par les événements, tout ce qui se passait, ça se passait vite. Et la semaine dernière, surpris par la victoire, parce que c'est la résurrection. Mais là, c'est la suite. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, ce qu'on vient de lire, on peut le comparer avec Luc 24, 21, où est-ce que les disciples d'Emmaüs disent à Jésus lui-même, sans l'avoir reconnu, parce qu'ils ne savent pas qu'ils parlent à Jésus, « Nous espérions, okay, ils parlent comme étant au conditionnel, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passés, puis il n'y avait rien vu de différent. » On peut dire que c'est l'esprit qui persistait, là, sous une certaine forme, peut-être atténuée, parce que déjà Jésus avait commencé à apparaître, on l'a vu la semaine passée dans le chapitre 20, après sa résurrection, son corps glorieux. Mais il y avait encore cet esprit qui était lourd, puis il y avait encore beaucoup de questions. Et même si Jésus, on l'apprend au verset 14, que c'était la troisième fois qu'il se montrait à ses disciples, parce qu'on a vu la semaine dernière, il s'est présenté sans Thomas, puis ensuite avec Thomas. Il y avait encore des choses qui se passaient dans leur cœur. Pourquoi? Parce que, par exemple, puis moi je l'ai juste ici dans ma Bible en bas, dans le livre des Actes, au début, quand Jésus, juste avant qu'il monte au ciel, son ascension, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il se demandait, « Coudonc, on n'est pas sûr de tout comprendre encore. OK, t'es là, t'es pas resté au tombeau, mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi la suite des choses? » Bien, il faut comprendre que Jésus n'a pas répondu à toutes ces questions qu'il avait. En fait, on l'a au verset 7, je viens de lire verset 6, il répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, Jésus, ce n'est pas là-dessus qu'il voulait s'attarder. Ce qu'on voit dans le, dans le chapitre 21 ici de Jean, c'est la suite logique et nécessaire de ce que Jésus a commencé dans le chapitre 20. C'est-à-dire qu'il a proclamé la victoire. Hein? Je veux dire, Jésus est ressuscité des morts. Il n'est pas resté au tombeau. Donc, la croix, tout est accompli et il a vaincu la mort même. Il a accompli la rémission des péchés. Tout est accompli. Et il a proclamé dans le chapitre 20. Et ici, il entame un processus, disons plus, à long terme, de restauration de la relation avec ses disciples. Parce que c'est là qu'il prenait. Il était confus, il était dans beaucoup de questionnements. Probablement encore des peurs qui persistaient. Qu'est-ce qui va arriver avec nous autres? OK, c'est beau, Jésus est là, mais là, nous, on est exclus des synagogues et tout. Donc, en ce sens, on peut dire, est-ce que vous connaissez l'expression, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres messages, « Ce qui ne nous a pas, ce qui n'a pas raison de nous, par un coup dur, va finir par nous avoir à l'usure. » Avez-vous déjà entendu cette expression? « Qui ne nous a pas par un coup dur, va finir par nous avoir à l'usure. » OK? Si on prend ça du côté positif, l'action d'éclat de la proclamation de la résurrection de Jésus, OK? T'sais, dans le fond, quand Jésus est ressuscité des morts, l'action d'éclat que ça représentait, cette victoire de la résurrection, ne pouvait être que momentanée. Parce qu'ils devaient être soutenus, nos chers apôtres ici, là, ils devaient être soutenus de façon permanente, à long terme. Ils ne pouvaient pas juste marcher sur le flash de quelque chose du passé qu'ils ont vu. C'est bien beau, mais il y avait besoin de plus à long terme que ça. Il y avait besoin d'une restauration constante par la fidélité de Dieu envers eux. Parce que c'était pas juste une affaire d'une journée. C'était à long terme qu'il avait besoin d'être entretenu par le Seigneur. Et Dieu, dans sa fidélité envers nous, nous protège de tomber dans les pièges du péché, de la chair, du diable, du monde, dans sa fidélité. Et pour le dire autrement, parce que là, je vais reprendre une phrase... dans le fond, là, l'idée de ce qui nous a pas par un coup dur, nous a par mesure, mais si on inverse ça, je vais vous donner différentes versions de ça, du côté positif. Ce qui ne va pas nous restaurer par une action d'éclat, ce qui ne va pas nous restaurer par l'action d'éclat de la justification, tu sais, ah, je suis sauvé, merci Seigneur, OK, c'est une action d'éclat dans nos vies, c'est extraordinaire le jour où est-ce qu'on reçoit Jésus comme notre sauveur, OK, va nous restaurer par la fidélité dans la sanctification. Ben, c'est beau la justification, mais c'est un moment passé. Puis nous, ici, ça fait 30 ans qu'ils sont sauvés. À un moment donné, on a besoin de plus long terme que ça. Ben, c'est ça, la sanctification. Dieu, dans la fidélité qu'il a envers nous, ses enfants, il nous sanctifie, il s'occupe de nous autres. Ou pour le dire encore autrement, ce qui nous a surpris le jour du salut, waouh, quelle grâce merveilleuse, doit continuellement nous émerveiller chaque jour de notre vie avec Dieu. Ou encore, je vous dis, la formule, je l'ai travaillée, ce n'est pas suffisant d'apprendre qu'un jour, je suis mort avec Christ, et c'est vrai, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes mort, et maintenant vivant en lui, mais j'ai besoin aussi de croire qu'à chaque jour, je demeure dans cette vie, dans cette communion avec lui. Ce qui a débuté par la mort avec Jésus, dans ma marche, c'est une... Je demeure dans ce cycle de la mort à moi-même, à mes ambitions, et la vie par la foi, à ses plans, à ce que lui a pour moi. Donc, c'était pour vous introduire un peu, parce que ça nous donne un peu l'idée ici de ce que Dieu est en train de faire, est en train de restaurer. Mais j'aimerais qu'on considère ensemble trois restaurations relationnelles données par Jésus ici dans notre texte. Et on commence à partir du chapitre, du verset 4. On va lire les versets 4 à 14 d'une traite. On va tirer des leçons de ça d'abord pour la restauration relationnelle après l'échec. Lisons, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Et chacun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et en fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. J'aime ici l'approche de Jésus, qui se présente à eux comme ça, avec une douceur. Et là, ils appellent enfants même. Vous n'avez rien pris? Un peu comme innocemment, évidemment, Jésus qui avait quelque chose de plus qu'il voulait ici leur montrer. Et donc, il pose une simple question. Vous n'avez rien attrapé? Il dit non, on n'a rien pris. Savez-vous quoi? Il y avait quelque chose de bon là-dedans, qu'il n'y avait rien attrapé. C'est parce que Dieu les préparait à ce que lui voulait leur donner. Tu sais, nos échecs, quand ça ne marche pas pour nous autres, c'est parce que Dieu veut nous donner ce que lui veut nous donner. Donc, c'était bon ici qu'il n'y ait rien attrapé cette nuit-là. Ça les préparait pour ce que Dieu voulait leur donner. Ça les préparait à recevoir sa provision à lui. C'est-à-dire une pêche miraculeuse. On s'entend, là, ils n'ont rien pris, ils font juste tirer de l'eau bord, puis là, c'était tellement une grande quantité de poissons que les filets étaient sur le bord de se rompre. Mais c'était plus que ça, c'était aussi une révélation. Pourquoi? Parce que ça marquait la présence de Dieu, c'est un miracle, OK? Parce que c'est des gens qui connaissaient bien le métier, là. C'était pas leur première fois qu'ils allaient à la pêche. Mais ici, on voit que juste du fait qu'ils aient comme ça attrapé cette grande quantité de poissons, Jean dit, « Hey, c'est le Seigneur! » OK? Ça leur révélait qui il était. C'est plus qu'une pêche miraculeuse, c'est la révélation de celui qui leur disait de faire cela. Donc, manquez pas l'essentiel ici. La provision la plus importante dans notre texte, ce n'est pas les poissons. Bien que c'était, c'est un miracle. Jésus leur a fait faire une pêche miraculeuse. Mais ce n'était pas là la plus grande provision, c'était Jésus lui-même. La plus grande provision, Jésus se donnait à eux. Il se révélait à eux, puis là, il allait se donner à eux d'une façon extraordinaire qu'ils ne connaissaient pas encore. C'était ça la plus grande provision. C'était plus que juste des poissons dans le domaine physique. C'était spirituel. Jésus se donnait, se montrait à eux. Puis j'aime quand il dit, venez puis mangez. Un peu comme, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il les invitait à la communion, à restaurer cette communion qui, on s'entend, avait mangé tout qu'un coup dur. Là. On s'entend qu'il y avait tout ce qu'on a considéré déjà, là, puis là, la croix, puis là, l'abandon. Puis imaginez-vous comment ils se sentaient. Puis là, Jésus qui vient, venez et mangez. Voyez-vous la richesse de ce moment, la beauté de ce moment que Jésus prend avec eux autres? C'est une grâce qui est initiée par Jésus lui-même. Et c'est ça l'idée de la restauration relationnelle après l'échec. Comme ça dit dans le cantique, « Quand je pêche, quand je fuis, il me poursuit. C'est le berger de mon âme. » Et la grâce que Jésus leur faisait ici, c'était celle de se faire reconnaître par eux. Puis là, l'affaire là, que Pierre, là, je l'ai dit tantôt, mais je veux clarifier, il n'était pas flambant nu en train de pêcher. Là. C'était une société décente et tout ça. Quand il parlait de nu, c'était, mettons, on pourrait dire, une tenue plus, disons, déshabillée. Là, on pourrait dire, genre en costume de bain, disons-le de même. Là, OK? Puis là, il a mis une tenue extérieure. Parce que, hey, wow, c'est le Seigneur. OK? Fait que juste pour clarifier, là, c'est pas la pratique des gens de l'époque d'aller à la pêche flambant nu. Là. Juste pour le clarifier. Mais je veux attirer votre attention sur l'idée ici que Jésus se faisait reconnaître ici à eux parce que la puissance de l'échec, et spécialement pour Pierre, imaginez-vous le sentiment d'échec de Pierre. Hey, Seigneur, quand même que tous te renient, moi je ne vais pas te renier. Puis là, il avait vraiment lamentablement et publiquement été, je vous dirais, spectaculairement échoué en reniant Jésus trois fois, comme d'ailleurs il avait dit. Probablement que sa vision spirituelle était brouillée. Probablement que son cœur aussi était appesanti et sûrement aussi confus. Puis, ce n'est pas à négliger ici l'importance fondamentale de reconnaître le Seigneur dans nos échecs, suite à nos échecs, et même au milieu de nos échecs. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu, lorsqu'on échoue, lorsqu'on pêche, c'est de se révéler à nous tel qu'il est. Et ça, c'est déterminant parce que, savez-vous quoi? Ma perception que j'ai de Dieu, mon appréciation que j'ai de Dieu va être déterminante pour comment je vais agir pour la suite des choses. Si je pense qu'à cause de mon échec, Dieu ne veut plus me regarder d'une façon favorable, que Dieu m'abandonne, OK? Ça va, pensez-vous que ça va déterminer la façon que je vais agir? Ou si je crois que Dieu, lorsque je suis repentant, lorsque au lieu d'excuser mon péché, que je m'humilie devant lui, que Dieu me reçoit, que Dieu a de la grâce face à quelqu'un qui est disposé comme ça, pensez-vous que je vais prendre une direction versus une autre? Ça va être déterminant comment je vois Dieu là-dedans. Si je pense que Dieu est approchant versus qu'il ne l'est pas, ça va tout changer la façon que je vais agir pour la suite des choses. Et c'est ça ici qui est important. Peut-être qu'il y avait toutes sortes de choses qu'il pensait, comment que ça pouvait continuer, là, parce que là, ici, bon, retournons à notre ancienne vie, dans le fond, c'est ce que Pierre dit, puis les autres embarquent là-dedans. Mais Jésus voulait simplement leur dire, non, oui, ils avaient eu un échec, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Puis je ne vous ai pas abandonné. Puis je suis bon envers vous. Je suis fidèle. Et je suis plein de grâce et de vérité envers vous à ce moment présent que vous vivez. Et donc ça, c'est la relation, restauration relationnelle après l'échec. Ensuite, dans les versets 15 à 17, et on va les lire, je vais prendre le temps de vous les expliquer, on a la restauration relationnelle pour le ministère. Verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci, que même ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Je vais prendre le temps d'expliquer. Savez-vous c'est quoi ici la dynamique de ce qui arrive dans ces versets-là? Je vais prendre le temps d'expliquer, c'est pas très compliqué, mais la répétition, c'est pas parce qu'il voulait juste répéter de même. Il y a vraiment ici, en fait, il y a une répétition, mais il y a des éléments différents. Quand Jésus lui demande la première fois, « M'aimes-tu plus que ceci? » Il prend le mot grec « agapé » qui est le mot pour l'amour le plus fort. Okay? Pierre est humilié. Pensez-vous, il va dire, « Ah oui, je t'aime agapé, moi, à fond les manettes, pas de problème. » Non, Pierre est humilié, il ne répond pas de la même manière. Il dit, Jésus pose la question, « Tu m'aimes-tu comme ça, agapé? » Pierre, humilié, répond, « Non, moi, je t'aime philéo. » Un amour humain fort, fraternel. Mais, vous voyez qu'il reconnaît que, ouais, il était pas aussi... bon qu'il pensait. OK? Là, on pourrait dire, hey, Jésus, il l'humilie devant tout le monde. Coudonc, il voulait-tu le shamer? Pas du tout. En fait, c'est précisément l'inverse. Donc là, comment Jésus conclut ça? Fais mes agneaux. Ça, c'est les petits bébés brebis. OK? Bon, ça, c'est la première fois. Deuxième fois, Jésus pose encore la même question. Est-ce que tu m'aimes agapé? Pierre répond la même chose. Je t'aime philéo. OK? Donc, on a la même dynamique ici. Mais là, Jésus ne dit plus, fais juste mes petits agneaux, fais aussi les brebis. Pas juste les plus faibles, les plus jeunes du peuple, mais même les plus matures, les autres apôtres, OK, comprenez-vous? Donc, voyez-vous qu'il restaure. Parce que Pierre, là, c'était évident pour tout le monde qui avait échoué. Mais Jésus le prend là, puis devant les autres, il dit, OK, tu ne m'aimes pas comme tu pensais, c'est pas grave. Je te confie quand même non seulement mes agneaux, mais aussi les brebis. Et là, la troisième fois, c'est pour ça que Pierre est embarrassé. C'est quoi qui arrive? C'est que
Là, Jésus, il ne demande plus « Est-ce que tu m'aimes agapé comme ça? » Lui-même, Jésus baisse la barre. « Est-ce que tu m'aimes même filéo? » C'est comme si, dans le fond, il remettait en question « Est-ce que vraiment même tu m'aimes de même? » Il y a un pierre qui est apparaissé qui dit « Oui, je t'aime de même, filéo. » Comprenez-vous, là? Jésus l'avait mis haut, là, il descend à la troisième question. Puis qu'est-ce que Jésus dit encore? « Paix mes brebis. » Autrement dit, qu'est-ce que Jésus fait dans ce passage-là? C'est que il met devant tout le monde ce que tout le monde aussi se doutait, là. Pierre n'est pas parvenu. Pierre est faible. Pierre est moins fort qu'il pensait. Il n'est pas aussi, tu sais, hey, même si tous te renient, moi, je ne vais pas te renier, OK? Pierre est revenu sur le plancher des vaches, mais j'ai pas changé mes plans avec lui. Moi, je ne l'abandonne pas. Puis savez-vous quoi? Je vais encore me servir de Pierre dans mes plans avec mon Église. Et donc ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que après l'humiliation percutante que Pierre avait vécue, il croyait peut-être que justement, OK, Dieu allait l'accepter, mais tu sais comme ça aligne, là. OK, Pierre, tu peux l'être sur le bord, là. Viens pas trop proche de moi. Je te restaure, mais tu sais, disons, borderline. Mais c'est pas ça. Jésus le place en plein centre. Pas le centre d'attention, mais le centre de son plan. De ce que lui voulait faire avec. Et c'est Jésus qui fait ça, puis c'est pas juste pour un rôle. C'est pour s'occuper et diriger ce qu'il a de plus précieux, ses brebis. Lui, le bon berger. Et donc, je vous pose la question. Et là, ça, c'est le point, c'est le cœur de mon message. Est-ce que le monde est là ce matin? Est-ce que vous êtes attentif? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que tu crois à la restauration de Dieu? Puis là, je ne veux pas le dire juste vite de même. Je vais prendre le temps de l'expliquer. Crois-tu que lorsque Dieu restaure son enfant repentant, ce n'est pas une restauration partielle, mais complète? Est-ce que tu crois que la restauration, c'est pas juste Dieu qui nous endure, mais c'est Dieu qui nous réinstaure pleinement, puis même à un endroit plus favorable? Et là, je vous donne une illustration qui n'est pas totalement nouvelle, mais c'est pas tout le monde qui est honnête nécessairement, mais vous vous rappelez ce que j'ai partagé avec les membres, puis je l'avais partagé ici à l'église, à peu près, ça fait-tu 2 semaines? Quelque chose de personnel, quelque chose que je voulais... C'était clair que Dieu m'amenait à partager ça avec l'Église. Bien, je dirais, pour revenir un peu là-dessus, la deuxième moitié de 2025, là, ça a été, je dirais, le moment le plus bas, le plus difficile de toute ma vie personnelle, conjugale, familiale, pastorale, tout l'ensemble. Puis, comme je l'avais partagé, c'était pas tout le monde qui le sait, puis tout ça, parce que, bon, c'est pas, je veux pas nécessairement décourager le monde, puis que les gens soient tous pris au dépourvu avec ça. Mais c'est la réalité, ça a été un moment vraiment difficile. Et l'essentiel de ce moment-là, ça consistait à remettre absolument tout en question. Par exemple, je l'ai dit, vraiment la validité, la véracité de mon appel. Est-ce que vraiment Dieu, c'est toi qui m'as appelé ou c'est moi qui m'ai appelé moi-même? Et je vous dirais que, entre autres, ce passage-là a été instrumental pour me ramener à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, puis pour le prochain. Sans l'amour, on n'est rien. Et essentiellement, comme ici avec Pierre, je pense que ce que le Seigneur s'est servi de ça pour, tu sais, mes pensées, mes regards étaient sur « je suis pas digne, mes motivations sont pas bonnes ». Tu sais, puis là, on peut tout remettre toutes sortes de choses en question. Mais écoutez la phrase que le Seigneur m'a amenée, puis qui m'a ramenée, puis que je me rends compte qu'il est l'essentiel. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Ben, qui est suffisant pour ces choses? Dans le fond, je me suis rendu compte, je regardais beaucoup à moi-même, puis tout ça, puis en même temps, c'est ça. C'est comme si le Seigneur me disait, « Hey, c'est pas par rapport à toi, tes faiblesses, tes torts, tes péchés, mais à comment moi, dans ma grange, je me sers de ces choses, de tes faiblesses, tes tares, tes péchés, pour te préparer à te qualifier à ce que moi j'ai pour toi. Autrement dit, c'est pas parce que tu as tout réussi, tout parfait, correct, c'est justement dans le fait que tu es tout faible, c'est moi, c'est de ça que je vais me servir pour ce que moi je veux faire. C'est ça qui arrivait avec Pierre. Pierre n'était pas le leader idéal, puis même lui-même le dit devant tout le monde. Mais Jésus dit, ça, c'est pas grave. Moi, j'ai quelque chose à faire avec ça. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, elle s'accomplit dans quoi? Dans notre force, dans nos qualités interpersonnelles, dans notre... Non, dans notre faiblesse. Dans justement nos points faibles. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'échec, la faiblesse, les choses qu'on voudrait ne pas avoir, mais en fait, c'est le moyen principal par lequel Dieu veut que je serve ceux vers qui il m'appelle. Par exemple, je pense que notre expérience familiale, qu'on vit familialement, mais aussi en tant qu'Église, ben je sais que vous êtes avec nous là-dedans, mais ça communique la bonté, la suffisance de Dieu à travers des épreuves de même. Moi aussi, personnellement, dans ma faiblesse inhérente, à travers des années, je me suis rendu compte, j'ai eu une insécurité, une crainte de l'homme. Ça m'aide pour le mentorat, pour aider d'autres à faire face à cette réalité puis à être vrai par rapport à ça. L'ouverture et la transparence que tout ça a amené, ça développe une culture d'Église qui est vraiment précieuse et malheureusement rare. Puis je dirais que, puis moi je suis toujours un peu en débat, c'est une expérience un peu de Moïse ou de Pierre, tu sais, Moïse au début, hey, let's go, tu sais, j'étais un peu de même, là, au début, là. Fait que c'est bon que Dieu m'a humilié, mais tu sais, la confiance en soi, puis l'idole du ministère, puis tout ça, c'est bon par rapport à être réaliste, puis authentique, et spirituel par rapport à ces pièges de la chair, puis du moi. Donc autrement dit, moi je pense que tout ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça accomplit les desseins de Dieu. Donc, c'est ça l'idée de la restauration pour le ministère. Puis, je vous rappelle la phrase. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Ah ouais, lui est donc bon, je vais le prendre. Non, il qualifie les appelés. Puis souvent, regardez les appelés dans la Bible, c'est du monde pas mal tout croche. Bon, peut-être l'exception de Joseph, là, puis Daniel, d'autres, tu sais, sont comme... Mais regarde, Moïse commence sa carrière avec un meurtre. « Wow, ça va être tout qu'un délivreur pour délivrer mon peuple d'Égypte. » Mais c'est demain que ça commence. Puis Pierre aussi, en tout cas. Fait que, je voulais amener ça par rapport à ce point-là, qui est au cœur du message. Puis je veux terminer avec la dernière restauration relationnelle. C'est qu'au bout du compte, oui, OK, c'est après l'échec. Oui, c'est Dieu pour comment lui veut se servir de nous autres. Mais n'oublions pas que la restauration, c'est vers une personne. C'est vers... notre relation avec Dieu, vers une personne à suivre. Et ça, on a ça dans les versets 18 à 23. En vérité, puis là, c'est Jésus qui parle toujours à Pierre. Là. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu ne voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, « Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Autrement dit, « Ouais, là, tu m'as dit pour moi, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver à Jean? » Jésus lui dit, verset 22, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. « Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Et effectivement, Jean il est mort, là, mais c'est le dernier qui est mort. Il est mort il y avait près de 100 ans, si je ne me trompe pas. Il est mort de sa belle mort parce qu'ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils ont voulu le tuer en le trempant dans l'huile bouillante qui, normalement, évidemment, tu meurs. Mais Dieu, miraculeusement, l'a gardé parce qu'il n'avait pas fini avec lui. Il voulait qu'il écrive le livre de l'Apocalypse. C'est Jean qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ça a été l'instrument. Et donc, regardons maintenant avec ces derniers versets. L'idée de la restauration relationnelle, c'est vers une personne à suivre. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent? C'est que Jésus voulait les libérer. Parce que Jésus, ici, c'est tout bon ce qu'il faisait. Il voulait les libérer l'ensemble du poids, ou je pourrais dire de la mort, de la comparaison. Lorsqu'on se compare, premièrement, la Bible nous dit qu'on n'est pas sage. Mais si on est sous le joug de la compétition, un esprit de compétition, puis la loi, dans le fond. Moi, je fais mieux que toi. Toi, tu ne fais pas ceci, OK? Et ça, c'est la mort. C'est pas constructif du tout. Parce que notre appel est unique. Et on est appelé à suivre une personne lorsqu'on est un enfant de Dieu. Et ça, c'est l'élément unificateur. L'élément unificateur, c'est pas qu'on fait toute la même affaire, puis qu'on le fait tout de la même manière. C'est qu'on suit toute la même personne. Conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu lui-même est l'élément unificateur. Et c'est pour ça qu'une église, c'est l'unité dans la diversité. Et je dirais, c'est ce qui décrit mieux la mosaïque, hein, qui est l'œuvre de Dieu. L'unité dans la diversité. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance, malheureusement persistante, mais néanmoins charnelle, à nous comparer les uns les autres. Et je vous lis le verset, là. Ça nous dit, « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Dieu lui-même dit que ce n'est pas intelligent de faire ça, de se comparer aux autres. Et on peut faire ça avec des gens dans l'église ou des gens de d'autres églises. Que ce soit un cas ou l'autre, c'est malsain. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair. Pourquoi? Ben parce que l'idée, c'est qu'on n'est pas appelé à suivre un modèle que quelqu'un fait, mais on est à suivre une personne, et cette personne, c'est Dieu. Puis pour certains, il y a un plan, pour d'autres, il y en a d'autres. Et c'est lui qui décide comment que ça marche. Et un bon barème pour savoir si... Parce que je veux dire, on ne peut pas de façon absolue ne pas se comparer, là. Mais savoir si c'est la chair ou non, bien d'abord, ça nous dit dans Galates qu'on peut moissonner soit selon la chair, soit selon l'esprit, et qu'un va donner la corruption, puis l'autre la vie. Fait que si le fruit de mes comparaisons, ça va donner la corruption, la mort, bien c'est pas bon. Puis une autre façon aussi, ça dit que toute parole de notre bouche doit communiquer une grâce. Si le fruit de ce qui sort de ma bouche est un arbre de vie et communique la vie, ben c'est probablement justement parce que mon focus est à la bonne place. Et donc, c'est simplement ce petit point-là ici que je voulais amener par rapport à suivre une personne. Puis, je veux conclure avec la conclusion de l'Évangile et de ce que Jean ici nous dit. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est la conclusion de l'Évangile de Jean. Une déclaration formelle que tout ce qui est écrit est la vérité fondée, prouvée. Et savez-vous quoi? La vérité, ce n'est pas juste des choses écrites dans la Bible, dans un livre, c'est Jésus lui-même qui est la vérité. Jésus est la vérité incarnée. Et donc, connaître Jésus, c'est connaître l'ultime vérité. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Jésus est venu le révéler. Et ça, c'est la vérité. C'est une vérité historique, factuelle, mais aussi relationnelle. C'est pas juste une vérité pour notre tête, c'est une vérité pour notre cœur. C'est le baume pour nos cœurs. Et c'est là la seule vraie et authentique relation qui amène la restauration. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Cette relation que Jésus avait initiée avec eux autres, il s'en occupait. Puis Jésus, c'est ce qu'il fait. Il a tout accompli sur la croix, une fois pour toutes. Et ça, c'est le début de la relation avec lui. Lorsqu'on voit notre besoin, qu'on accepte cette œuvre de réconciliation par la croix. Lorsqu'on voit que c'est notre plus grand besoin, notre plus urgent besoin d'être réconcilié avec Dieu par le sang de la croix. Ça, c'est le commencement. Puis pour un enfant de Dieu, comme ici, les disciples étaient des enfants de Dieu, ils étaient déjà, ils suivaient Jésus, déjà ils étaient réconciliés avec Dieu. Mais on voit comment Dieu s'occupe de la suite des choses. Et pour nous autres qui sommes ici des enfants de Dieu, ce que Dieu a commencé, il va le finir. Puis je ramène cette chose que j'ai amenée pendant le message, et c'est avec ça que je veux conclure. Cette restauration à long terme que Dieu a entamée et continue dans ma vie, pour moi, là, pour en bénéficier, ce qui va faire la différence fondamentale, c'est comment je le vois, Dieu? Comment je le perçois? Est-ce que je le vois tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé dans la parole? Ou, et c'est là souvent tellement le piège de la vie chrétienne, c'est s'imaginer quelque chose au sujet de Dieu, comment qu'il serait, comment... Mais selon ce que moi je pense ou m'imagine, et non selon ce qu'il dit dans sa parole. Ça, mes amis, c'est ce qui fait en sorte que tellement de chrétiens sont misérables et ont de la misère parce qu'ils s'imaginent que Dieu est d'une façon alors qu'il n'est pas comme ça. Puis, des fois, c'est pas nécessairement sur ce que Dieu est, c'est aussi comment il agit. Comme là, eux autres, ils étaient ici, dans le dernier chapitre de Jean. Ah, ben là, on l'a vu ressusciter, puis tout ça, OK, ça c'est beau. Mais là, c'est quand la restauration du Rappelé, il y avait encore l'Empire romain, puis il y avait encore les taxes, puis les collecteurs de taxes, puis il y avait encore toutes ces affaires-là qui étaient là, là. Dans le fond, on dirait pas que ça avait changé grand-chose. Mais Dieu, justement, c'est là-dessus qu'il voulait travailler. Dire, non, moi, je ne marche pas comme l'homme marche. Je ne marche pas comme vous autres, vous pensez. Savez-vous quoi? C'est encore de même aujourd'hui. Des fois, on se dit, mais comment ça que c'est de même? Ça ne change pas grand-chose. Il me semble que c'est pas comme ça que ça devrait être. Ça, c'est se prendre pour Dieu quand on rentre dans cette façon de penser-là. Ce que Dieu nous demande, c'est fais-moi confiance, puis laisse-moi être ce que je suis. Puis, en tant qu'enfant de Dieu, c'est se réfugier là-dedans. Si Dieu est Dieu, il est bon, toutes ses voies sont justes, tout ce qu'il fait avec moi est rédempteur, je peux y faire confiance. Autrement dit, Dieu ne l'échappe jamais. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on persévère à le croire? C'est ce qui se passait ici, puis Dieu s'en occupait. Puis savez-vous quoi? C'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Il s'occupe de nous autres. Il ne nous laisse pas aller comme ça. Est-ce que c'est arrivé dernièrement que Dieu t'a parlé à ton cœur? T'a rappelé quelque chose qui a fait... Merci Seigneur. Tu sais, quand ça fait ça dans notre esprit, là, quand il y a un soulagement, de dire, ah Seigneur, t'es bon. Merci, t'es fidèle. Ça, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est cette relation qui est maintenue, qui est gardée, puis dans le fond de nos cœurs même. Il peut y avoir zéro témoin autour, mais nous, c'est ce qu'on a besoin dans le plus profond, le plus intime de notre être. Et Dieu fait ça avec ses enfants. C'est ce qu'il faisait ici, on l'a vu ensemble. Et c'est ma prière pour chacun ici. Moi, je ne sais pas tout ce que chacun traverse, les questionnements, les doutes, les peurs, tout ce qu'on peut traverser. Mais Dieu le sait. Puis, si on fait confiance à qui il est, peu importe les voies qu'il prend, on peut y faire confiance. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire avec Dieu. Des fois, les choses qu'on aurait pensé qu'il faut donc que ça soit de même, puis que Dieu va complètement tout défaire ça, puis nous amène complètement ailleurs. Ah, on pensait qu'il y avait donc de la force là-dedans, puis de l'assurance. Dieu nous dit, non, ça c'est un château de cartes. Ma force, l'assurance est dans ce domaine-là. Laissons Dieu faire ça quand il fait ça. C'est bon quand il fait ça. C'est oui, je vais vous donner une façon de le dire. Dieu défait nos idoles, l'objet de notre confiance qui ne devrait pas être une confiance, puis il nous amène à nous confier en lui et en lui seul. Donc c'est bon quand Dieu fait ça. Et Dieu, c'est ce qu'il faisait ici. Savez-vous quoi? Dieu n'a pas changé de métier. Il est encore celui qui restaure. Il est encore celui qui amène cette restauration relationnelle. Puis ça commence d'abord et avant tout par le salut. Si vous n'êtes pas sauvé, recevez Jésus comme votre sauveur personnel aujourd'hui même. On va prier. Merci Seigneur pour ce temps dans un texte tellement béni de ta parole, regorgeant de vérité. On aurait pu passer plusieurs messages à considérer tellement d'aspects de ce qui est ici. Mais merci que ce que tu nous as donné ce matin... Je suis convaincu, Seigneur, tu es souverain et tu es personnel. C'est ce qu'on avait besoin. de ta part. Et qu'on puisse, Seigneur, répondre par la foi. Réponds par la foi à ce que tu as pour chacun de nous ici. Et aussi, Seigneur, fixer ensemble nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, afin d'avancer, oubliant ce qui est derrière, porter les regards sur ce qui est en avant. Et c'est toi qui es en avant, Seigneur. On peut fixer les regards sur toi et tout va bien aller. Merci pour ça, Seigneur. Merci que, oui, tu règnes, tu es fidèle, tu es bon. Et qu'on puisse te voir tel que tu es. Brise les imaginations, les pensées, tout ce qui va contre la connaissance de Dieu dans notre vie. Amène toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Pour ta gloire, pour tes desseins, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.